Tout de suite, on déhousse les raquettes.
One, two, three.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéen.
Bonsoir, je suis Jeanne Balibar.
Et je suis Elitsa Gurgueva.
Et ce soir, dans Ping Pong, vous vous en prenez à Dostoïevski et Youri Gagarine, mais aussi Serge Gainsbourg et Kurt Cobain.
Ping Pong, la culture sans limite.
De la culture comme un kit de survie. La rentrée scolaire, c'est dans 2 jours. Et force est de constater que ce qui inquiète dès aujourd'hui la ministre de l'Éducation, ce n'est pas la culture des élèves, mais bien plutôt leur sécurité. La menace terroriste sur les établissements scolaires est malheureusement bien réelle. Et Najat Vallaud-Belkacem assume, je cite, « la volonté affirmée de développer à l'école une culture permanente du risque » et de la sécurité dans les bahuts, avec par exemple des stages de gestion de risques extrêmes et des exercices d'évacuation et de confinement. Volonté renforcée hier, au cours de sa conférence de rentrée, où la ministre a demandé qu'il n'y ait pas de Pokémon rares dans les établissements scolaires pour éviter tout risque d'intrusion massive venue de l'extérieur. Soit. Pour que ces mesures s'enracinent et portent leurs fruits chez les adolescents, nous ne saurions que trop recommander à Najat Vallaud-Belkacem d'imposer en sus... D'abord, la lecture au CDI de la polyorcétique, d'Aîné le tacticien, ce bréviaire de l'art de tenir un siège. Et puis, le visionnage du film Green Room, l'histoire d'un groupe de très jeunes punk rockers qui se retrouvent enfermés dans le club d'une bande de néo-nazis assoiffés de sang et qui, 1h30 durant, s'emploient à sauver leur peau à coups de clés de bras apprises justement en EPS et de néons décrochés des faux plafonds. Pas d'erreur, nous ne proposons pas ici un outil pédagogique d'initiation à la violence, mais bien une fable qui chatouille par l'expérience du 7e art notre instinct de vie. Trêve de confiserie, la polyorcétique d'Aîné le tacticien est éditée aux belles lettres et Green Room de Jérémy Saulnier sort le 7 septembre en DVD. Sa musique, quant à elle, est publiée chez Milan Musique. Elitsa Gurgueva, l'héroïne de votre roman qui vient de paraître, Les cosmonautes ne font que passer, elle découvre, elle aussi, entre autres, en Bulgarie, des films violents venus des États-Unis. Vous auriez un film peut-être de ninja à nous conseiller comme manuel de survie en milieu hostile?
De ninja, mais en fait, il y avait surtout des films de kung-fu, en fait. Je me rappelle de La fureur du dragon, par exemple. Un bon film. Mais il ne fait pas très très peur.
Jeanne Balibar, vous nous conseillez quelque chose aussi?
Comme film violent. Kit de survie a oublié toutes ces histoires de sécurité tout de suite maintenant.
Выходите на постоянную орбиту согласно указаниям спутника Валентины.
Du premier vol cosmique de Youri Gagarine au No Future Grunge de Kurt Cobain, c'est la bande-son de votre premier roman, Elitsa Gurgueva. Les cosmonautes ne font que passer chez Vertical. On bascule avec vous de l'enfance à l'adolescence en Bulgarie, de la dictature du camarade Todor Zhivkov à la transition pas si démocratique, de la fin des années 80 à la fin des années 90, du rêve de devenir un héros de la conquête spéciale, comme vous l'appelez, à celui de devenir un chanteur désespéré comme Kurt Cobain, chanteur de Nirvana. Vous vivez en France depuis 1998. Pourquoi vous décidez de raconter cette jeunesse bulgare en français et surtout entre deux mythes populaires?
Alors, pourquoi en français? Déjà parce que, effectivement, comme vous le dites, ça fait 15 ans que je vis là et mon premier désir était aussi de raconter cette histoire à celles et ceux que j'aime en France et à raconter qu'est-ce que ça peut être de grandir dans un climat aussi peu cohérent, avec des valeurs très contradictoires, dans un paysage plein de paradoxes et dans une telle métamorphose où chaque jour est différent. Et je trouvais ça intéressant de le raconter, d'autant que moi-même j'étais enfant et adolescent et j'aimais beaucoup ce parallèle entre les deux mouvements. Voilà, donc le français, c'était un petit peu... Bah, spontanément, j'ai commencé à écrire ici ce texte il y a quelques années.
Elisa Gheorgheva, votre roman, c'est... On le découvre même à la toute fin, c'est vraiment un Bildungsroman, comme on dit en allemand, un roman d'apprentissage. Et en même temps, est-ce qu'il n'y avait pas la volonté, comme vous dites, de raconter cette histoire et de cette façon de rendre hommage à ce que vous appelez le rôle des familles dans l'accomplissement des destins héroïques individuels? C'est aussi un roman sur, sinon votre famille, sur le rôle des familles dans la construction des individus?
Bien sûr, en fait, moi ce qui m'intéressait, c'était de raconter comment justement le politique, dans ce moment précis qui était voilà, très mouvementé, entre dans...
L'année 89, hein, rappelons-le, oui. Au départ du roman, l'effondrement du rideau de fer.
La chute du mur de Berlin qui n'est pas un homme, comme le découvre l'héroïne. Ce n'est pas une personne, c'est une ville.
Voilà, j'ai mis du temps à me rendre compte parce que c'est vrai que j'avais 7 ans. Et ce qui m'intéressait, c'était justement comment le politique entre dans la vie des familles, de chaque individu, même des individus qui sont trop jeunes pour comprendre. Donc même dans les rêves, comment ça se reflète, même dans les rêves d'un enfant, en fait, qui évidemment ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est la chute du mur de Berlin ou qui est Berlin, comme vous dites, et en quoi son immobilier a un tel impact dans la vie affective de ses parents. Elle voit juste qu'ils s'embrassent et elle est très étonnée. Et donc c'est vrai que c'était cette imbrication entre le personnel et le politique qui m'intéressait. Et puis bien sûr l'endroit qui est l'enfance, parce que ça permettait justement de revisiter cette histoire qu'on connaît quand même un petit peu, mais d'une manière plus fantasque et plus ludique. Et
ouais. C'est vrai, on l'a dit, donc il y a deux figures populaires, la figure de Yuri Gagarin et celle de Kurt Cobain dans les vies que vous souhaitez vivre, les vies héroïques que vous souhaitez, vous, petite fille, vivre. Il y a la tension donc entre le macro et le micro, entre l'échelle donc de l'histoire et celle de la vie familiale. Et puis, il y a quand même ces contradictions Est-Ouest en permanence, entre deux Europes, entre deux modèles, entre l'orthodoxie et le libéralisme. Et vous avez choisi finalement de raconter tout ça à auteur d'enfants. Pourquoi? Oui.
Bah parce qu'en fait, ce que j'aime bien, c'est aussi cette idée que justement, un enfant peut raconter les événements sans hiérarchie. C'est-à-dire que pour elle, c'est aussi important de voir ses parents s'embrasser que la chute du mur de Berlin ou qu'est-ce que deviendra sa mission de devenir cosmonaute. Donc en fait, tout est un peu au même niveau. Et en fait, je m'inspirais aussi de mon vrai vécu, puisque ce jour-là, il se trouve que j'étais malade donc au moment de la chute du mur de Berlin. Et j'avais noté dans un petit carnet avec des phrases très simples, très enfantins, que je suis malade, que le président est chassé du pouvoir et que ma mère est très contente. Donc je me suis un peu inspirée de ce document familial pour augmenter justement l'humour qu'il y a et justement ces paradoxes, comme vous dites très justement, la Bulgarie est de toute façon un pays qui est traversé par des paradoxes et par des éléments qui sont pas du tout cohérents. C'est vraiment un pays entre l'Orient et l'Occident, entre les vestiges de l'univers soviétique et ces nouvelles valeurs américaines qui arrivent et qui sont complètement contradictoires.
Et oui, il y a l'orthodoxie et le soviétisme, et de l'autre côté les valeurs ultralibérales. Vous parlez de ces gâteaux bizarres qu'on appelle les hamburgers.
Voilà, bien sûr, parce qu'en vrai, l'arrivée de McDonald's en Bulgarie, ce serait un vrai événement.
Oui, on l'entend, il y a quand même beaucoup, énormément d'humour dans ce récit, qui pourtant est le récit, Elisa Gheorgheva, des difficultés du passage de l'enfance à l'adolescence, du devenir femme de votre héroïne. Et il se trouve, Jeanne Balibar, que vous avez pu... avouez que adolescente, vous avez souffert, vous étiez une adolescente contrainte, névrosée, éloignée de vous-même. Il m'a fallu des années pour me libérer, avez-vous un jour avoué dans le journal La Vie.
Ah bon,
vous avez aussi comme...
J'avoue un truc pareil.
Ouais, mais
un truc aussi banal.
C'est le moment d'y revenir.
Que vous avez mis des années à vous en remettre, vous en avez lu la même.
Et vous, Mathilde, comment ça va avec la féminité? Comment ça va avec la vie, vous, Martin?
Écoutez, délicieusement de vous avoir à nos côtés dans le studio 108 autour de cette table de ping-pong. Mais justement, est-ce que dans ce passage de l'enfance à l'adolescence, il y a des événements politiques qui ont pu vous marquer, comme l'effondrement du communisme bouleverse la vie de l'héroïne d'Elisa Gheorgheva, Jeanne Balibar?
Non, je pense que moi, je suis née en 68. Alors après ça,
Non. Tout était déjà...
Non,
tu pars dessus tête ?
Non, je suis née en 68, donc j'avais 13 ans en 81. Mais enfin, on peut pas comparer l'arrivée de Mitterrand au pouvoir avec la chute du mur de Berlin et les secousses à l'Est. Qu'est-ce qui s'est passé encore pendant mon adolescence de passionnant 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ? Rien, jusqu'au mur de Berlin aussi, moi. Mais là, j'étais déjà
Tchernobyl,
étudiante.
Ça n'est pas passé au-dessus de votre tête ?
J'ai pas énormément de souvenirs de Tchernobyl en tant qu'ado. Ouais, je devais avoir 15 ou 16 ans. Quant aux difficultés du devenir adulte, tout le monde, non ? Enfin, moi, jusqu'à aujourd'hui, c'est catastrophique, mais bon, c'est pas ça.
Mais pour revenir peut-être aussi à cette pièce de théâtre, cette adaptation des frères Karamazov de Dostoïevski par Franck Astorff, on est aussi sur une tension entre deux Europes. On est aussi sur la tension entre le libéralisme et le mysticisme religieux. C'est ça aussi, cette pièce de 6h15 que vous allez présenter pour le Festival d'automne.
6h15,
entracte compris.
On est dur en
négociation.
À Berlin, écoutez, on fait 6h, entracte compris. Alors, je ne sais pas ce qui va nous prendre un quart d'heure de plus à Paris.
C'est ce qui est annoncé.
Non, oui, enfin, évidemment, bien sûr, le travail à Berlin est beaucoup plus traversé que le théâtre français par cette question de la substitution d'un monde à un autre. Moi, d'ailleurs, je ne suis pas toujours complètement d'accord avec les Allemands quand ils disent que c'était vraiment très différent l'Allemagne de l'Est. Je ne suis pas sûre, en tant qu'ex-étudiante en histoire, de pas penser qu'il y a peut-être des choses qui sont générales à toute l'Europe d'après-guerre et pas seulement au bloc soviétique, ou des choses du côté de la restriction des libertés qui sont aussi du côté de l'Europe de l'Ouest. Mais enfin, est-ce que c'est de ça qu'on parle vraiment tant que ça dans cette mise en scène ? Vous me posez une colle là, puis ça fait longtemps qu'on n'a pas joué depuis avant les vacances.
On va y revenir, mais littéralement, il y a une scénographie où on voit que c'est signé de Bert Neumann, qui a disparu depuis,
ouais.
Où on voit littéralement que le système prend l'eau. Enfin, on a l'impression qu'on nous renvoie aussi à l'Europe d'aujourd'hui et à ses contradictions non résolues, à ces montées qui sont toujours là.
Oui, ce qui nous renvoie aux contradictions de l'Europe d'aujourd'hui, c'est précisément ce qu'il y a dans l'œuvre de Dostoïevski déjà, bien qu'elle date du 19e siècle, c'est-à-dire le poids du religieux et l'ambivalence de ce que c'est que le religieux, parce que moi, par exemple, je joue le rôle du fameux Starets Zosim au début de la pièce, qui est un personnage très ambigu de religieux, à la fois bon et mauvais, mais pour finir, à la fin de la mise en scène des 6h ou 6h15, on s'aperçoit que je suis le diable et qu'en fait, tous les personnages que j'ai joués jusque-là étaient des incarnations du diable. Donc, il y a ce poids du religieux, cette ambivalence qu'on l'appelle orthodoxie russe ou quoi que ce soit d'autre. Et puis, il y a aussi, parce que Castorf a mêlé au texte de Dostoïevski des textes d'un écrivain contemporain russe qui s'appelle DJ Stalingrad, ce qui est un pseudo, en fait, il s'appelle Silaïev, je crois, des textes qui sont de la Russie d'aujourd'hui et où les personnages sont en proie à cette déchirure entre IKEA et les valeurs dans lesquelles ils ont été élevés. Voilà.
Justement, Elitsa Georgieva, dans votre roman, Les cosmonautes ne font que passer, il y a donc cet effondrement du rideau de fer et qui entraîne essentiellement la déferlante de ce que le capitalisme, au fond, fait de plus con, de plus décervelé, MTV, les films de ninja, la gonflette pour les garçons, le McDonald's pour tout le monde. Est-ce qu'il y a une dimension ironique ou est-ce que c'est seulement la stricte et la triste réalité de la Bulgarie d'après 1989, l'hiver 89?
Bah pourquoi MTV, c'était rigolo parfois aussi.
Mais oui, c'est quand même là qu'on a découvert Thriller de Michael Jackson en 1990.
Et les clips de Nirvana donc.
Surtout Nirvana. Et puis Sylvie Vartan bien sûr, mais ça c'était un peu plus tard. Non, mais en fait bien sûr c'est à la fois un peu ironique en fait la manière de présenter ces événements qui arrivent, et en même temps on avait un vrai besoin, je pense, dans ces années-là de découvrir aussi cette culture américaine. C'est le nouveau rêve américain, bon c'est bien connu, mais c'est vrai que chez nous ça a été une vraie volonté de s'ouvrir au monde tout simplement, et le monde c'était le monde occidental, parce que je pense qu'on n'assume pas forcément le côté oriental en Bulgarie dont vous parlez.
Druga, ti zlubi, a mene me
morceau de Chalga, de musique pop, trop sucrée, trop salée, bulgare, apparu à la fin des années 90. Le morceau en question s'intitule « Sans Mercedes » et la chanteuse de chanter en talons très haut, même vertigineux, « Je voudrais posséder 100 Mercedes et faire l'amour dans une partouze avec 100 hommes ». On a une idée de cette musique et de sa teneur, donc aussi dans votre roman « Les cosmonautes ne font que passer », Elitsa Georgieva, où cette musique sort de partout, de toutes les fenêtres, et en particulier de celle des mafieux, des mutras. Qu'est-ce qu'elle apprend quand elle déferle cette musique-là à votre héroïne de ce que la Bulgarie est en train de devenir?
Je pense qu'elle essaye de se protéger, puisque effectivement, c'était pas forcément une image très exagérée. La Chalga était d'un coup partout. Et en plus, elle chantait ces valeurs-là de la mafia, de la corruption, des Mercedes. Et donc, je rends hommage justement à ce morceau-là dans le roman. Mais oui, c'est vrai que, en fait, je pense que la moitié des Bulgares, ils n'en pouvaient plus de cette musique, et en même temps, l'autre moitié adorait, parce que voilà, c'était le mélange parfait entre l'Orient et l'Occident, et encore aujourd'hui, par ailleurs, le pop folk, comme on appelle aujourd'hui la Chalga, et la musique la mieux développée, où il y a le plus d'argent, et voilà. Et qui d'ailleurs va bientôt subventionner la culture bulgare. Il y a comme projet qu'elle verse de l'argent au ministère de la Culture, qui est très pauvre.
Avec ce type de paroles toujours.
Ça a beaucoup évolué, donc vraiment il y a vraiment beaucoup de chanteurs différents, donc c'est difficile de, mais oui, enfin, c'est tout à fait représentatif.
Beaucoup de chansons sur les Mercedes hein, dans l'histoire de la musique.
Mercedes-Benz de Janis Joplin, par exemple.
Par exemple.
Thomas Benz.
Ah ouais. Oui. C'est classique.
C'est plutôt Janis Joplin ou Anthem,
Jeanne. Les deux égales.
Quand on reprend justement les paroles de ces chansons que vous citez dans votre roman Elitsa Georgieva, on va être bourré et vous déglinguer. Si je t'attrape, je t'éclate le jean. C'est aussi un petit peu du rap, d'une certaine manière. Donc ça, c'est la période Chalga.
Du Frank Astorf.
Corruption.
C'est bien trop misogyne pour être du Frank Astorf.
Ah, voilà. Commentaire de Jeanne Balibar qui sauve Frank Astorf de cette attaque indigne. Mais du coup, c'est vrai que on se rend compte avec cette arrivée de transition démocratique, de démocratie explosée, comme le répète la jeune fille, la petite fille que vous êtes dans ce roman, la deuxième personne, il faut dire que vous parlez au tu tout du long. On a donc ce sentiment que c'est la dégringolade, qu'on va avoir les économies qui fondent au soleil, qui deviennent pâles comme un yaourt, hein, comme vous le dites vous-même. Et finalement, tout ce qui se passe de grave dans cette transition démocratique et dans cet avenir de la Bulgarie, vous le racontez toujours au détour d'une blague. On apprend les vraies informations, les vrais drames, ce qui touche vraiment votre famille et ce qui vous touche vous en tant que petite fille, parce que j'ai l'audace de croire que ce tu, c'est vous. Enfin, cette narratrice, c'est vous. On a l'impression que voilà, vous avez choisi toujours de le faire passer sur le côté. Est-ce que voilà, c'était une volonté de s'échapper, on va dire, de ce que peut être la vie des autres ou un roman de Lola Lafont sur Nadia Comaneci?
Oui, en fait, déjà, j'utilisais le tu parce que ça augmentait cette distance qu'il y avait justement entre ce qui se passe réellement et cet enfant qui est un peu protégé hein, par son âge, voilà. Et je suis très sensible à ce mélange entre le burlesque et le tragique. Enfin, c'est-à-dire que j'avais une vraie envie de revisiter ces moments-là qui sont extrêmement tristes. Et par ailleurs, je me sens triste par rapport à l'histoire de la Bulgarie. Mais j'avais envie de voir aussi le côté un peu libre de cette période où, quand on est adolescent, on voit pas forcément que le problème. Et d'ailleurs, il y a trois points de vue. Il y a quand même l'enfant, les parents et le grand-père, communiste émérite, qui lui...
Vrai communiste.
Une vraie communiste émérite et qui va le vivre vraiment très très mal, cette chute de rêve, enfin, cet effondrement de rêve communiste. Donc, je voulais qu'il y ait ces trois niveaux de lecture par rapport aux événements. Et le tu, c'est un peu plus personnel aussi. C'est parce que mon père, il se trouve qu'il avait fait un journal pour moi quand j'étais petite et il s'adressait à la deuxième personne. Donc pendant 7 ans, il avait dit « tu as fait ceci, tu as fait cela aujourd'hui ». Et il m'a raconté comme ça plusieurs événements, comme par exemple le père Gel qui devient soudainement père Noël, etc. Le premier Noël, la fin du communisme, enfin voilà, ces événements-là, lui aussi, il les avait décrits. Donc c'est vrai que je voulais garder cette forme à la deuxième personne pour parler de ça.
Il y a Juste un mot sur ce travail littéraire, parce que c'est très méthodologique en fait, c'est-à-dire que il y a aussi énormément de récurrence sur les points A, B et C. C'est une méthode d'énumération et d'analyse des phénomènes qui revient tout le temps dans votre roman. Il y a ce système donc de récurrence de mots qu'on va retrouver. Le grand-père est un vrai communiste, le placard est difficile, très difficile d'accès, puis devient un placard facile d'accès, le tapis c'est une fierté familiale, le chien il est absolument indestructible, c'est un bâtard indestructible. À chaque fois que ces éléments, ces objets ou ces animaux sont cités, vous avez toujours la même formulation. Pourquoi vous avez travaillé comme ça sur la récurrence ? Chaque chose est toujours déterminée pareil au fil des pages.
Ça m'amusait de rendre ce personnage encore plus obsessionnel, en fait. Et donc, cette petite fille qui est particulièrement et presque trop sérieuse pour son âge et qui est comme un petit soldat et qui organise sa vie par mission, par liste, par des traumatismes qui reviennent. Par exemple, on peut aussi citer les amygdales elle a été opérée des amygdales. Donc, à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, elle va se demander, alors, est-ce que lui, il a ses amygdales encore? Enfin, voilà. Donc, ça m'amusait d'exagérer un peu ce côté-là. Et de jouer sur les répétitions, et effectivement des mots qui reviennent tout le temps et qui changent un petit peu au fil du récit, parce que l'indestructible chien jockey devient un indestructible bâtard, et puis finalement c'est un chien d'une super race occidentale. Donc voilà, enfin en fait c'était aussi une manière de mettre dans les épithètes les changements qui arrivent autour de ces personnages, en fait, de les présenter d'une autre manière.
Et aujourd'hui, c'est votre premier roman, Ilsa Gheorgheva, et jusqu'ici vous faisiez du cinéma, vous faisiez de la performance ou des conférences sur le black metal. Là vous évoquiez l'importance des petites notes que vous avez prises enfant dans des petits carnets, le journal que tenait votre père à votre intention, mais est-ce qu'il y a d'autres nourritures littéraires qui ont pu vous accompagner? Parce que quand on lit le portrait que vous faites de Todor Živkov, donc le dirigeant de la Bulgarie communiste, ce portrait, il fait de votre héroïne tout de suite une dissidente. Moi, j'ai pensé au portrait de Staline par Mandelstam, avec ses moustaches qui bougent comme des cafards. Il y a quelque chose comme ça chez votre Živkov. Vous vous êtes nourri de nourriture bulgare, de romans russes?
Alors, je pense que déjà, en Bulgarie, il y a beaucoup de blagues et d'humour autour de ces personnages. Donc, déjà, j'avais pas mal réfléchi et récolté des manières de les décrire pendant que j'écrivais. Après, je me suis nourrie de plein de choses différentes. Pour citer un auteur russe qui m'a beaucoup marqué, c'est par exemple Tchekhov, qui lui aussi a ce mélange de raconter des réalités un peu tristes, mais au travers des scènes burlesques. Et justement, puisque vous parlez de la conférence, une de mes pièces préférées, c'est Les méfaits du tabac. Et c'est l'une des ancêtres des conférences performance, où on a une sorte de professeur qui, au lieu de parler de quels sont les effets néfastes du tabac, va raconter sa vie, et ça va être une logorée sans fin, etc. Donc c'est une référence importante. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Ben si, ça répond à la question, ça répond aux nourritures qu'on présidait à l'écriture de ce roman. Ce qui est marquant aussi, et peut-être qu'on pourra y revenir dans les parallélismes avec les frères Karamazov, c'est effectivement cette façon de ne pas prendre position de manière politique, mais simplement quand même, au détour d'une phrase, de nous signaler que lorsque on doit essayer de comprendre ce que c'est que des versets, on vous explique qu'il n'y a pas plus à comprendre, qu'il faut le connaître par cœur, comme les chansons communistes, il n'y a rien à comprendre. Et en fait, on se rend compte aussi qu'on passe une sorte de fournisseur d'éternité à un autre. C'est-à-dire qu'il y a d'abord cette éternité soviétique, ces moments d'espoir, ces grands monuments de l'amitié, et puis cette éternité peut-être de la religion qui est proposée en alternative immédiate, sans transition, comme si une valeur pouvait se substituer à une autre instantanément. Est-ce que ça c'était aussi un travail, on va dire, d'alignement politique que vous avez fait?
Oui, en tout cas, j'avais très envie de citer directement des slogans communistes, des versets, enfin de rapporter certaines même enfin phrases et formulations typiques communistes ou américaines après. Et pour revenir justement sur ce que vous disiez, c'est vrai que j'avais très envie aussi de commencer cette histoire en décrivant une image qui est une mosaïque. Et déjà parce que ça correspondait aussi à la manière un petit peu fragmentaire d'écrire ce récit, qui n'est pas forcément un roman très classique puisque c'est par épisode. Et puis parce que cette image de la mosaïque, moi, me parle beaucoup. C'est comme une image qu'on comprendrait pas si on est très près, mais si on s'éloigne, on comprend mieux et on retrouve cette image à la fin du roman, ce qui fait une boucle. Et voilà, donc pour moi, c'était intéressant aussi de mêler ces différents documents, objets qui peuvent tenir tout seul à côté, c'est-à-dire cette mosaïque que j'ai réellement filmée, elle est décrite dans le roman, etc.
Vous, Jeanne Balibar, qui avez non seulement une adolescence contrainte et douloureuse, on en a parlé il y a un moment, mais qui en plus avait été élevée, entre autres, par un père assez féru, fin connaisseur de la pensée marxiste, qui a été un temps encarté au Parti communiste. Vous avez grandi avec un panthéon de héros soviétiques, avec des mantras communistes qui vous ont guidé.
Alors d'abord, j'ai pas eu du tout une adolescence atroce, etc.
Il faut vraiment supprimer cette information.
On va appeler la rédaction de La Vie.
J'ai pas le moindre souvenir d'avoir donné une interview à La Vie, mais bon.
En 2008.
Oui, très bien. Et je saurais pas comment répondre à votre question, en fait, parce que...
Il y a une place pour ce patrimoine communiste,
le patrimoine
dans
communiste
dans votre éducation,
dans ma vie, oui, bien sûr, mais je pense dans l'histoire de tous autant qu'on est, l'analyse économique marxiste, la pensée marxiste, les rêves, les espoirs, les combats qui se sont appuyés sur l'idéologie communiste ne sont pas tous à foutre à la poubelle, loin de là. Et oui, moi j'ai aussi été très déçue quand j'ai appris en histoire ce que c'était que le 20e congrès du PCUS. J'étais d'ailleurs étonnée à l'époque, mais mon père était encore au Parti communiste, je crois, quand j'ai découvert ça. Je veux dire, mon père a été...
Vous avez été déçue par la déstalinisation?
Non, je lui ai dit, mais comment t'as pu entrer au Parti communiste en 61, c'est-à-dire après 56? C'est des questions très compliquées, je trouve, ça. Parce que je sais pas comment on fait pour être... Il faut bien avoir un peu de croyance positive pour vivre. Mais après, pour que ça ne devienne pas une religion, que ce soit l'espoir catholique ou bon, dans lequel je ne me reconnais pas, ni les illusions du communisme tel qu'il a été réalisé en Europe après 1917, c'est compliqué, quoi. Moi, je me débrouille très mal avec ça.
1, 2, 3. Vous écoutez Ping Pong qui se débrouille comme elle peut sur les ondes de France Culture avec les questions compliquées à suivre. Rien moins que 6 heures de bruit, de fureur, de désir et d'absolu avec donc Jeanne Balibar à l'affiche des Frères Karamazov, mise en scène à la Courneuve par Franck Castorf, et toujours avec Elitsa Georgieva et son roman Cosmonautique.
Musique. Ping Pong. La culture sans limite.
Plus la peine de demander la permission. Si dans votre roman, Elitsa Georgieva, les petites filles n'ont pas le droit de s'entraîner dans les arbres à devenir cosmonautes et rêvent de devenir infirmières, ballerines ou pareil que maman. Notre héroïne musicale du jour s'appelle Little Sims et c'est une jeune rappeuse britannique dont vous n'avez pas fini d'entendre parler parce que petit A, à 22 ans, elle a pris le pouvoir au festival Rock en Seine ce week-end à Paris avec un concert mémorable. Parce que petit B, elle s'est faite toute seule dans sa chambre en 4 mixtapes et un mini-album. C'est Jay-Z tout seul qui a décidé de partager sur le web sa mixtape Black Canvas, lui offrant une reconnaissance internationale. Et puis petit C, parce que pour sortir son premier album, pas question d'être maqué sur le label d'un autre. Elle le sort sur son propre label, Age 101 Music, et s'offre même la collaboration de Kendrick Lamar. On l'écoute, la grande Little Sims.
Bow, bow. M.O.P. on all of my curves. I got a chip on my shoulder. When you gon' grow up? When you gon' grow up? When you gon' grow up?
Ping pong.
Lit in a bottle of Tokyo. I never knew love me. I wanna know love now. We just need a resolution legally. I ain't ever see you on my day. Was
hood and I'm rolling with my top down. It's raining in West Hollywood. I'm still rolling with my top down. It's raining in West Hollywood and I'm still rolling with my top down. It's raining in West Hollywood. Don't be judgmental. Do this shit on purpose. It's never been accidental. City of my dream turned out to be detrimental. How I'm feeling, I've been let down and it wasn't gentle. How I'm feeling, I've been stressed out. Cause you know myself, it hasn't been the best now. Shit, I'm looking like a mess now. It's raining in North London, no witness. Nothing new except the press town. I've been trying to get away from those who rockin' foolish. I see through these niggas, tell me nigga, who you foolin'? Funk going uptown, I really do this. Shit, you lookin' stuck now. Shouldn't you be moving? No, don't get me started. Niggas getting worried that soon I'm gonna forget just where I started. Ooh, don't get me started. Ooh, still I'ma talk. It's a fresh day. Focus on yourself, don't worry what the rest say. I thank my mother here for raising me the best way. Take no bullshit from anybody. Everybody can hear me when you press play. See your life as a chess game. Ooh, I'm a dreamer. They like I'm looking for Simbi. Where the hell is she? Please in my celly straight away if you see her. Rolling with my, so rolling with my top down. Sexy, your mama likes it to the sunset. I was insane. Yeah. In my movie, I don't know my captions. I got a chip on my shoulders. When you gon' grow up? When you gon' grow up?
Confession. Lyrisme, une rappeuse au vocodeur qui fait de l'ego trip comme les plus grands rappeurs masculins et qui s'appelle Little Sims. Vous l'avez vu en concert, Elitsa Georgieva?
Oui, deux fois. Et j'adore vraiment. J'adore son énergie. Elle est absolument extraordinaire. Et voilà, elle aussi, je pense que c'est une petite fille qui avait beaucoup de missions parce que je pense qu'elle fait du rap depuis très petite dans sa chambre et qu'elle est très très obsédée. Ça se voit sur scène.
Vous la verrez en concert le 23 septembre à Marseille pour le festival Mars Attack.
Les rêves de mes amis, de mes jeunes amis, pleins de faux, pleins de soif de vivre.
C'est là que l'homme nouveau, mais c'est ce que tu disais encore, et il se propose de tout détruire et de tout recommencer assez haut, en commençant par le cannibalisme. Et alors, si tu veux que je te dise ce que j'en pense, c'est débile.
Pourquoi est-ce qu'ils m'ont pas demandé à moi? À mon avis, à moi, il n'y a rien besoin de détruire, besoin de rien détruire du tout, il suffit juste de détruire dans l'homme l'idée de Dieu. C'est par là qu'il faut commencer. Ah oui, c'est par là qu'il faut commencer. Par là!
Les frères Karamazov dans la version de Frank Castorf, proposée du 7 au 14 septembre à la MC 93 dans le cadre du Festival d'automne. C'est une expérience de la démesure, Jeanne Balibar, non seulement parce qu'il est question de l'ubris, de la démesure de l'homme, en particulier face à Dieu, mais c'est aussi de la démesure tout court. On l'a dit tout à l'heure, 6 heures de spectacle, 6 heures de spectacle quasiment entièrement en allemand. Pour vous, la comédienne française qui certes jouait depuis quelques années outre-Rhin avec la complicité de Castorf, au terme de ces 6 heures de spectacle, c'est ce qu'on vient d'entendre, vous parlez un petit peu français, vous êtes juché sur des pointes, après avoir couru dans l'eau, endossé plusieurs rôles. C'est une expérience, ce spectacle, qui est faite de cris, de coups. Il y a des giclées de sang, des giclées de pastèques, des lumières crues. À quoi est-ce que l'art du jeu de Frank Castorf, qu'on appelle parfois le Shockmeister, le maître du choc, à quoi cet art du jeu de Castorf vous fait toucher en tant que comédienne, et peut-être fait toucher chaque spectateur?
Je sais pas. C'est quelque chose de très extrême, en effet. Mais je crois que c'est toujours ça, le théâtre. Le théâtre, c'est une extrémité. C'est un bout du monde, ou un bout de soi, mais je veux dire au sens d'aller au bout, c'est une fin de partie, comme dit Beckett. Alors ça peut se faire de toutes les manières possibles, ça peut se faire en distendant le temps au maximum, comme fait Claude Régis, ou dans le bruit et la fureur, comme chez Castorf. Quoique en réalité, il y a plein de moments dans lesquels les choses se calment, mais c'est vrai que revient toujours cette chose d'aller au bout de soi, au bout de son énergie. Dans mon cas, par exemple là, dans ce que vous venez d'entendre, parce que je crois qu'il faut quand même le dire aux spectateurs, c'est le seul moment où ça parle français dans les 6 heures de spectacle.
Et c'est à la fin.
C'est à la fin et en fait, je me traduis moi-même là dans ce qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire que le texte, je l'ai appris en allemand, mais je le traduis de nouveau tous les soirs quand je joue ce passage-là. C'est pas une traduction de Dostoïevski en français que j'ai apprise à ce moment-là. Et comment vous dire, c'est quelque chose qui a à voir avec Artaud aussi, avec pour en finir avec le jugement de Dieu, justement, avec ce fameux truc radiophonique d'Artaud, là où il part dans tous les... C'est-à-dire avec une distorsion du langage destinée à faire apparaître la distorsion des êtres et la distorsion de l'histoire du monde. Ce qui, pour moi, est la définition même du théâtre. Alors après, on n'est pas obligé de le faire de cette manière-là. Moi, il se trouve que depuis 3 ans ou 4 ans, je sais pas, j'ai la chance que Castorf, ayant travaillé avec moi à Paris en français, découvert à cette occasion que je parlais l'allemand couramment, m'a proposé de venir travailler chez lui dans sa troupe à Berlin. Et j'ai tout de suite dit oui parce que il n'y avait pas d'aventure théâtrale qui pouvait, comme cette occasion-là, à ce moment-là, remplir mon désir de théâtre. Mais à d'autres moments, ça a été complètement autrement avec d'autres et ça sera aussi sûrement autrement d'autres fois. Mais là, juste en ce moment, maintenant, voilà ce qu'on va jouer à partir du 7 septembre, là, dans ce nouveau lieu, là, cette friche industrielle. Alors, le spectacle, en fait, il a été créé pour une friche industrielle à Vienne et puis ensuite, on l'a réadapté.
Une ancienne usine de cercueil, je crois.
C'était une usine de cercueil à Vienne et là, ce sera une usine de turbines électriques, je crois, qui
est... Babcock,
oui. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire.
Babcock,
d'ailleurs.
C'est incroyable, ça fait rêver comme territoire industriel.
Ouais, et donc voilà, et c'est ce qu'on va faire là. Oui, c'est vrai que c'est. Je trouve pas d'autre expression que de se mettre en cheville avec le bruit et la fureur. Oui, c'est sûr. Mais enfin, qui nous anime tous, non?
Vous dites que Castorf est brûlant de liberté.
Ah, j'ai dit ça, mais qu'est-ce que j'ai pu dire?
Qu'est-ce
comme
que vous dites
bizarre.
Comme chose?
Vous avez vu qu'on aime vous
mais
lire.
Où est-ce que j'ai dit ça? On aime vous lire. Vous êtes vachement érudit. Hein.
Que c'est un des plus grands metteurs en scène au monde,
enfin, c'est le plus grand au monde
le plus
actuellement.
Grand.
Ouais.
Devant Milo Rauch, devant Ivo Van Hove, on le dit, Castorf, plus grand metteur en scène au monde. Brûlant de liberté, vous ne l'avez peut-être pas dit, en tout cas, ça existe dans ce qu'on peut lire dans les interviews que vous avez
mais
proposées.
Mais c'est justement pour ça qu'il est le plus grand, à cause de la liberté. Ouais.
Comment ça se traduit? Vous dites que parfois, ce n'est pas très important. Justement, ce qu'un metteur en scène peut vous dire, vous écoutez aussi la texture, le son, l'impulsion qui est donnée dans la voix.
Oui, oui, moi je pense que ce que dit le sens des mots, des phrases des metteurs en scène n'a strictement aucune importance, absolument aucune. Ce qui est important, c'est l'énergie qui sort de son corps et de sa personnalité et qui vous transforme, qui vous déplace et qui vous emmène à l'endroit de création où lui veut aller et où soit on se sent au plus vrai de soi si c'est là qu'on a choisi de travailler, quoi. Et la liberté, comment dire, je crois que la liberté, on en a très peu. Moi, chaque fois que j'ai cru en avoir, c'était pas vrai, en fait. Mais en scène, quand même, ou entre moteur et coupé devant certaines caméras, oui, elle peut être brûlante, en effet. Et c'est ça que je recherche, et c'est ça que je trouve là.
Vous dites, Jeanne Balibar, que Franck Castorf, peut-être spectacle après spectacle, mais peut-être même à l'intérieur de ses frères Karamazov, vous transforme, vous interprétez plusieurs personnages. On l'a évoqué dans la première partie de l'émission, il y a ce Starets qui vous fait apparaître comme une sorte de Pieta blafarde. Vous êtes ensuite une sorte de Gina Rowlands à la voix aiguë, avec une bouche carmin qui s'affronte à un pop. Et puis vous êtes aussi le diable, un diable nu qui porte une fourrure et des pointes de danseuse classique. Parlez-nous des personnages que vous interprétez dans ses frères Karamazov.
Bah en fait, oui, alors qu'est-ce que vous avez dit? Une quoi, blafarde?
Une Pieta, moi j'étais Pieta avec le blafarde. Bernin, mais un petit peu abîmé.
C'est mieux que moi, je le vois comme un atroce vieillard.
On se croirait chez André Roublev.
Non. Ouais, non, les trois personnages, je crois que ce qui fait le lien entre ces trois personnages, c'est quelque chose d'à la fois magnifique et effrayant, c'est-à-dire l'amour absolu, avec ce que ça peut avoir de nécessaire et en même temps de terrorisant. Parce qu'au fond, en effet, comme vous dites, d'abord j'incarne la religion dans ce qu'elle peut avoir de beau et de plein de pitié, en effet, mais aussi dans ses fureurs terrifiantes. Ensuite, la mère par excellence. La mère douloureuse, d'abord, et puis la mère... possessive d'une fille handicapée, enfin la mère douloureuse, oui, dans son abnégation et dans sa... Vous avez dit Gina Rowlands, mon agent quand il est venu à Berlin, il m'a dit Joan Crawford. Comme mère, je trouve que vous êtes vachement plus sympa que ce que j'ai entendu ou pu penser moi-même jusqu'à présent, donc ça va me donner du courage. Et puis après, le diable, c'est ça aussi, parce que ce diable-là, il lui dit, je ne suis pas le diable de Faust, de Goethe, je ne suis pas Méphistophélès. Méphistophélès veut faire le mal et n'arrive qu'à faire le bien. Ça, c'est son affaire à lui. Moi, je vois ça de façon absolument opposée. Moi, je suis peut-être le seul être sur la Terre qui aime réellement la vérité et qui veut réellement le bien. Et quand on aime réellement la vérité et qu'on veut réellement le bien, eh ben on est le diable.
Elitsa Georgieva, est-ce que d'être romancière comme la comédienne qui est Jeanne Balibar, en particulier dans Ses frères Karamazov, c'est le plaisir d'être plusieurs personnages à la fois, parce que dans Les cosmonautes ne font que passer, votre premier roman, vous êtes bien sûr peut-être cette petite fille d'abord, mais il y a aussi la mère, il y a aussi Constanza, l'amie qui à qui tout réussit. C'est ce plaisir-là, la littérature aussi, comme dans les rêves où on dit qu'on est tous les personnages.
Bien sûr, moi je suis assez sensible aussi à cette histoire de... Enfin, j'adore les comédiens qui jouent plusieurs personnages sur scène. Et quand j'étais adolescente, d'ailleurs, j'allais tout le temps au théâtre. Et parce que, bizarrement, le théâtre était resté au prix communiste. C'était vraiment pas cher. Donc, tous les soirs, j'y allais pratiquement.
À la Volksbühne de Sofia ?
Comment ?
À la Volksbühne de Sofia, le Théâtre du Peuple ? Il y avait équivalent ?
Il y en a quand même plusieurs, heureusement. Mais voilà. Et donc... je ne sais pas si ça répond à la question. Après, dans le roman, bien sûr, moi, j'avais envie de voir justement ces plusieurs personnes qui donnent tous leur point de vue et qui vivent tous à leur manière les événements et que justement, parfois, c'est tellement différent que ça crée un choc et justement, ça permet de mieux questionner ces événements et de justement aussi augmenter l'humour puisqu'il y a toujours ce décalage entre la petite fille qui va en fait donner une interprétation totalement différente et ça sera toujours un jeu d'enfant alors que de l'autre côté, par exemple, le grand-père, il sera toujours... il sera lui face à une vraie crise qui est une crise humaine.
Il y a l'idée de la recherche de la vérité dans ces extrêmes, dans ces personnages, dans cette liberté qu'évoquait Jeanne Balibar tout à l'heure. Dans votre roman, j'ai l'impression qu'au-delà de... On va passer plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il y a cette histoire donc de votre enfance et de votre préadolescence en Bulgarie, il y a cette histoire du pays qui se joue, cette histoire de l'Europe, il y a quelque chose aussi de l'histoire de la littérature, parce que c'est une réflexion sur le vrai et le faux, puisque c'est ça que finalement vous avez réussi peut-être à poser dans le livre, quand finalement cette phrase « rien n'est vraiment vrai » est écrite à la fin du livre, on sent que c'est peut-être ça l'interrogation. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux aujourd'hui, dans votre souvenir ?
Ça, c'est la plus grande tristesse, je pense, de se dire un jour, mais en fait, rien n'était vraiment vrai. Et tout ce qu'on a cru, en fait, n'était pas vraiment vrai. On avait cette impression-là, je pense, en 89, de se réveiller d'un coup et de se dire, mais surtout la génération de ces vrais communistes qui se sont battus, qui ont été résistants et qui ont vu leur vie passer, de se dire, mais en fait, ça n'a servi à rien, tout ça. Donc, il y a de ça, il y a aussi... Bien sûr, toute la propagande, enfin tout ce qu'on nous a raconté, et au final, ça n'avait rien à voir avec la vérité. Après aujourd'hui, on peut se poser la même question, et c'est aussi un jeu, bien sûr, avec le récit littéraire qui est aussi quand même de l'autofiction. Ce n'est pas non plus une autobiographie, donc je voulais aussi jouer à tous ces niveaux-là de vrai ou faux.
Jeanne Balibar, vos personnages dans Les frères Karamazov, donc cherchent entre autres la vérité. Le psychanalyste Jacques Lacan, que j'aime à citer, dit que la vérité...
Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de Lacan.
Et le revoilà. Jacques Lacan qui dit que, je crois, la vérité est toujours midite. On peut jamais la dire tout à fait. Le fait que vous, aujourd'hui, vous travaillez dans la langue allemande, non seulement dans ce spectacle-là, mais depuis donc plusieurs spectacles, en particulier avec Castorf, c'est une façon aussi d'approcher la vérité, encore plus que avec les masques du comédien qui parlerait, qui jouerait en français.
Je sais pas, non. C'est une façon, c'est sûr, de se libérer de la langue maternelle, hein, parce que vous voyez, on a tous des manières de parler qui, bon, en allemand, il faut que je suis pas prisonnière des manières de parler que j'ai mises au point inconsciemment, hein, depuis l'enfance. Donc ça aussi, c'est une libération d'être libérée de sa langue maternelle. Après, c'est un boulot dément, hein, parce que j'ai pas de famille allemande, donc c'est pas pour apprendre et tout. Et c'est même un boulot, en fait, une gymnastique de la bouche démente, parce que il m'est arrivé, en arrivant en Allemagne, de pas savoir quoi dire ou de même avoir des problèmes d'élocution. En 20 ans de carrière en France, j'avais jamais eu ce problème-là. Tout d'un coup, pof, ça me tombe dessus. Mais c'est ça qui est joyeux, c'est que du coup, on se redécouvre, on découvre des choses, voilà. Je dirais même pas des choses sur soi, mais des sensations ou des manières de jouer qu'on n'aurait jamais eu autrement. Après, est-ce que ça a à voir avec la vérité? Ça, j'en suis pas persuadée, hein. Oui, peut-être la vérité de qui on est, mais j'ai pas d'idée là-dessus.
Mais en quoi ça vous a aidé aussi à devenir comédienne ou actrice, le fait d'être justement dans une autre langue, d'être une autre?
Ah, j'étais déjà comédienne avant, il y a 4 ans. Hein, Mathieu.
Non, mais je vous parle de la formation finalement qui précède celle que vous aurez à la Comédie Française, enfin au Conservatoire, puis vous serez très vite débauché à la Comédie Française, mais cette formation qui est de devenir d'abord bilingue allemand, ouais, bilingue anglais, et finalement d'être dans ces langues différentes, non, déjà c'est une autre personne.
C'est vrai que je pense qu'apprendre les langues étrangères, c'est un bon moyen, ça peut se substituer à faire une école de comédie, quoi, parce que il faut être soi-même dans les mots d'un autre, mais au fond, la littérature est écrire, c'est ça aussi, ou jouer en français, c'est ça aussi. Jouer, quand on joue Claudel, on parle pas la langue qu'on parle tous les jours, pour dire passe-moi le sel, et même quand on joue je sais pas, des cinéastes réalistes, par exemple, c'est pas non plus ces mots à soi qu'on utilise. Donc, c'est vrai que je pense que c'est une très bonne école et que moi, c'est comme ça que j'ai appris. Et c'est pour ça qu'après, ça a été si vite, quand j'ai commencé.
Torture. Torture. Baby, you're torturing me. Why do you lead me around and make me chase you? When I catch you, you won't let me embrace you. Please, baby, have a heart, 'cause can't you see? You're torturing me. Torturing me. Torture that I'm going through is worth the pain if I have you. So if you love me, let me know. But if you don't, please let me go. Torture. Torture. Baby, you're torturing me. You know that I'm crazy about you, yet you make me do without you. Do you mean to hurt, or can't you see? You're torturing me. Torturing me. You're torturing me.
Une séance de torture particulièrement agréable. Vous êtes dans Par amour, c'est un album réalisé par Rodolphe Burger, c'est votre voix. Jeanne Balibar, vous dites à un moment que vous auriez pu être chanteuse lyrique. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce parcours-là, dans cette vie-là, comme Elsa Georgieva voulait être Yuri Gagarin ou Kurt Cobain? Qu'est-ce qu'il y avait dans la chanteuse lyrique qui vous appelait, qui vous séduisait?
La douleur. Et la musique, Le fait de devoir passer par-dessus les larmes pour... c'est toujours un cri, le chant lyrique, en fait, mais qu'il faut mettre en forme et... Il faut, on peut pas chanter de l'opéra si on pleure. Ça, c'est impossible. La voix sortira jamais. Donc, il faut trouver l'endroit où on passe par-dessus ça. Mais c'était, moi, j'ai absolument raté ma vie, hein. C'était ma vocation.
Vous chantez quand même un petit peu dans Les Frères Karamazov.
Ah bon?
De Castorf.
Oh, vraiment, trois secondes, hein. Ouais. Non. Non, mais tout est bien, on a mille vies possibles, voilà, ça aurait été une vie possible. C'est l'histoire de ma famille qui a fait que ça n'a pas été possible, parce que déjà mon arrière-grand-père était parti d'Odessa en 1911 pour devenir chanteur lyrique, il voulait aller en Italie étudier le chant et fuir les pogroms et fuir son destin de bœuf, de servant, de synagogue, et puis il a... tombé sur une fille dans le quartier juif de Paris, rue d'Alésia. Il a couché avec elle une nuit, elle est tombée enceinte. Et mon grand-père disait toujours, c'était un homme d'honneur, il l'a épousée. Et donc, il n'a jamais parti étudier le chant en Italie. Du coup, la musique s'est transmise comme ça dans la famille, mais comme beaucoup de familles de juifs d'Europe de l'Est. Et en étant à la fois un rêve et une interdiction. Donc moi, j'ai construit ma vie, cette interdiction, elle est allée jusqu'à moi. Et j'ai construit ma vie sur cette interdiction.
Et ça, Georgieva, il est question aussi d'une vocation de chanteuse, la grande voyante de la Bulgarie, la grande voyante soviétique. Oui, vous prédit un avenir radieux de chanteuse. Ça, c'est l'autofiction, c'est la partie fictive ou c'était effectivement quelque chose qui se traçait pour vous à l'époque?
Ah, c'est complètement de la fiction parce que moi, c'est vraiment mieux que je ne chante pas. Donc, non, c'était juste pour... Parce que
comme votre héroïne, finalement.
Ben oui, finalement. Peut-être que je chante aussi fort qu'elle, mais non, je pense que comme elle, j'avais les amygdales opérées sans anesthésie, c'est un hasard complet. Donc, je me suis dit que c'est mieux que quand même dans la vraie vie, je m'oriente plus vers l'écriture ou la performance et non pas le chant.
Mais cette grande voyante officielle de la Bulgarie que la mère de votre héroïne écoute, qu'est-ce qu'elle a pu prédire pour vous quand vous étiez enfant? On l'a consultée pour vous?
Non, on ne l'a pas consultée pour moi. On l'a consultée pour mon grand-père. Par contre, mon autre grand-père qui était déjà décédé, elle l'a vu. Il est entré dans la pièce. Donc voilà, elle a quand même croisé ma vie et l'histoire de ma famille, mais pas personnellement. Enfin, on ne s'est pas vu.
Alors ce soir, vous croisez notre vie, vous êtes dans le studio de Ping Pong, et j'aimerais qu'on dise un mot quand même de la radio, parce que non seulement l'objet, mais aussi les chaînes de radio bulgares et leurs programmes sont quasiment un personnage à part entière de votre roman.
Oui, je me suis beaucoup amusée à personnifier la petite radio belge modèle soviétique qui raconte que des conneries, enfin, de plus en plus, et, ou alors de moins en moins, enfin, selon le point de vue. Mais après, c'était juste parce que moi, j'adore écouter la radio et ça m'amusait d'imaginer cette mère journaliste à la radio.
Mais dites-nous un mot quand même du nom, du programme qu'elle anime après la chute du mur sur la radio Nouveaux Horizons.
Je m'en fous et bonne chance pour la suite.
Ça, c'est un super titre d'émission.
Bah, je pense que c'est un slogan qui dit tout de notre état d'esprit à cette période.
Et justement, pourquoi ça vient en français? C'est-à-dire que comment ça se fait que finalement, vous aussi, dans cette langue étrangère, vous soyez emparée presque du métier d'actrice littéraire en choisissant une langue qui n'est pas la vôtre?
Après, c'est tout un jeu. En fait, moi, je pense que déjà avec ce roman, j'ai un petit peu grandi aussi dans l'écriture. Enfin, et ça m'amusait aussi de croiser ces difficultés. Enfin, à la fois celle de la petite fille qui essaye de s'exprimer comme une adulte, alors que bon, ça le fait pas trop. Et puis moi-même qui m'efforçais à faire des phrases sans fin et que au bout de moment, c'était vraiment trop trop long. Et voilà, donc j'ai grandi au même moment que mon personnage, je pense. Mais voilà, après moi, je vis en France et ça fait beaucoup plus de sens de raconter cette histoire en français, malgré toutes les difficultés et malgré... Après, j'ai eu la chance de le faire aussi au sein d'une formation qui est le Master de création littéraire à Paris 8.
Et avec Olivia Rosenthal, entre autres.
Oui, avec Olivia Rosenthal, avec Maëlys de Kerangal, avec tous les étudiants aussi qui me relisaient. Et donc, ça a été aussi l'occasion de faire le tri entre les bonnes erreurs et les mauvaises. C'est-à-dire qu'il y avait des erreurs en français qui rendaient le texte encore plus étrange et justement je voulais travailler dans cette direction-là. Et puis il y avait des erreurs qui empêchaient la compréhension et je sentais bien que parfois c'était drôle mais parfois c'était complètement incompréhensible.
Et vous, Jeanne Balibar, en jouant les frères Karamazov avec Franck Castorf, vous grandissez encore, non seulement parce que vous montez sur des pointes?
Bah, je sais pas. Oh, vous me posez des questions tellement.
Vous sentez déjà très grande?
Non. Non, je sais pas. Bah oui, bah j'espère qu'on grandit tous les ans. Non, je sais pas.
C'était quoi le titre de l'émission, Lisa Georgieva? On s'en fout et
on s'en fout complet.
On s'en fout complet et bonne chance pour la suite.
Ping-pong. C'est déjà fini.
Merci beaucoup à toutes deux. Jeanne Balibar, vous jouez avec 11, parmi 11 acteurs. Les frères Karamazov, mis en scène par Franck Castorf, c'est donc du 7 au 14 septembre à la MC 93, à la halle de la friche industrielle Babcock à la Courneuve dans le cadre du Festival d'automne. Et quant à vous, Elitsa Georgieva, merci pour Les Cosmonautes ne font que passer, publié chez Vertical.
Le ping-pong est un petit récit radiophonique qui sourdit en équipe et quelle équipe. À la rédaction Aïssat Wendoy, Jeanne Aléo, Seam Boutata et Mathilde Cadreau. À la réalisation Thomas Beau et à la prise de son ce soir Jean-Guilain Meige et Stéphane Poitevin. Mais quid de notre beau lendemain?
Demain, Mathilde, nous recevrons Michel Blanc, auteur et scénariste du dernier film de Pascal Chomeil, Un petit boulot, et la jeune Laureline Matuissi pour son roman graphique expressionniste et saturé de désir, Je viens de m'échapper du ciel.